Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, The Big Bang Theory.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
Bazinga, le 16 mai, sera diffusé le 279e et dernier épisode d'une comédie qui fut lancée à la rentrée 2007 et fascina très vite tout un noyau de geeks, fans, amateurs d'imaginaire et de culture populaire qui se retrouvaient dans ces personnages. En 2015, ils étaient 20 400 000 Américains à rire avec eux. Tourné le 30 avril dernier dans le plus grand secret, vous pourrez voir ce dernier épisode à 2h40 du matin sur Canal+, en simultané avec les États-Unis. Bon, c'était un peu comme Game of Thrones hein, quand même, et puis un peu comme Seinfeld, une autre sitcom, dont on avait diffusé le final en simultané sur une petite chaîne qui n'existe plus, qui s'appelle Canal Jimmy, tout ça a été en 1998. Pour rendre hommage à The Big Bang Theory, j'ai décidé que nous allions, le temps de ce podcast, incarner Sheldon, Leonard et Penny. Et oui, on change carrément d'identité. Et Penny, j'ai la joie d'accueillir Roxane Mansano.
Oui, donc blonde comme Penny, mais ayant les mêmes talents qu'elle pour la comédie, j'ai choisi le journalisme série.
Bonjour Penny ou bonjour Roxane, tu es journaliste série à Télé-Loisirs et tu vas nous retracer l'ambiance sur le tournage de la sitcom, puisque tu as eu la chance d'y assister. À côté de toi, on a Sheldon. Alors Sheldon, c'est Sébastien Barquet, lui aussi journaliste à Télé-Loisirs.
Bonsoir Alain. Bonsoir Alain.
Penny.
Bon ben et moi, il me reste le rôle de Léonard, alors je vais reprendre le rôle de Léonard, voilà. The Big Bang Theory repose sur un trio de personnages et sur tous ceux qui les entourent. Deux jeunes scientifiques et adeptes de la culture geek face à une jolie serveuse qui veut devenir actrice et qui habite la porte en face de chez eux. Sheldon et Leonard sont physiciens, ils aiment les comics, ils aiment la science-fiction, un peu comme moi, et ils sont donc un peu dans leur monde. Leurs prénoms, Sheldon et Leonard, font référence à un producteur télé très connu qui a créé des séries comme Les Espions et plein de sitcoms mythiques aux États-Unis, mais quasi inconnus en France. Le monsieur s'appelait Sheldon Leonard, justement. Le ressort comique de la sitcom, c'est la confrontation avec Penny, qui est le bon sens, la réalité faite femme. Penny, c'est Kalei Cuoco, qui a déjà été dans une comédie à succès, Touche pas à mes filles. Leonard, c'est John Galecki, qu'on a découvert dans un sitcom Roseanne, du même producteur que Big Bang Theory, ça aide. Et Sheldon, c'est bien évidemment Jim Parsons. Bill Prady est le co-créateur de la série. Nous étions quelques-uns, dont Sébastien Barquet et Roman Higita, à l'avoir rencontré au Festival de télévision de Monte Carlo. C'était en 2012. Avant d'être scénariste télé, il y a longtemps, j'étais un programmeur informatique. Et j'ai toujours été fasciné par les gens avec qui je travaillais, qui étaient brillamment intelligents, mais qui avaient beaucoup de difficultés à se positionner socialement dans notre monde. J'ai longtemps pensé à de tels personnages, et ce n'est que 20 ans plus tard que j'ai eu une conversation avec Chuck Lorre, le grand producteur télé, sur une nouvelle série. On a parlé de plein de choses. J'ai commencé à lui raconter des histoires sur ces types que je connaissais donc à l'époque où j'étais dans l'informatique. Et il m'a dit, tu sais, de tels personnages n'existent pas à la télé. Voyons voir ce qu'on peut en faire. Et c'est Chuck Lorre, le co-créateur et producteur de la série, qui va nous raconter la suite. Chuck Lorre est effectivement une légende de la télévision, le producteur d'un nombre considérable de sitcoms, toutes à succès. De Roseanne à Dharma et Greg, en passant par Sybille, une maman formidable, mes deux papas, ou mon oncle Charlie. Bill est lui-même un génie de l'informatique. Et il côtoyait ses autres programmeurs géniaux. En fait, ils sont capables de faire du calcul mental absolument incroyable, mais ils ne peuvent pas parler aux filles. Ils ne peuvent pas donner un pourboire au restaurant parce que c'est une équation qui est pour eux avec trop de variables. Mais ils peuvent trouver pi à la 80e décimale, mais ils ne peuvent pas filer un pourboire à la serveuse. J'ai pensé que c'était des personnages absolument fascinants et très drôles, parce qu'il y a quelque chose d'universel à se sentir laissé pour compte. Même quand les gens sont spéciaux, ils peuvent se sentir rejetés. Et ces gens ressentent qu'ils ne font pas partie de la généralité. On a donc commencé à parler de ça. On avait aussi en tête l'idée de faire une série sur une jeune femme qui repart de zéro. Et on a mis ces deux projets en un seul. On a changé l'informatique pour la physique, car j'ai pensé que ça serait plus intéressant que les ordinateurs. C'est de la science pure. Ils ne veulent pas être riches. Ils veulent découvrir les secrets de l'univers. Et pour créer son personnage emblématique de Sheldon, Bill Prady est allé puiser dans son passé. Sheldon est basé sur une personne en particulier que je connaissais à l'époque où j'étais dans l'informatique. Mais une des caractéristiques de cette personne, le fait qu'il ne pouvait pas parler aux filles, a été donné à un autre personnage. On s'est dit que si on donnait tout à Sheldon, ça ne serait pas très crédible. Et que je devrais sans cesse me justifier en disant que je connais ce type. Mais c'est une version un petit peu moins extrême, quand même. Beaucoup d'histoires de la vie de Leonard viennent de ma propre vie, ou de celle d'un autre scénariste, Stephen Molaro. Nos expériences douloureuses face à la vie, aux femmes et à l'échec. Il faut toujours partir de la réalité. Un pilote est fait pour la saison 2006-2007 et il est refusé. Mais la chaîne CBS, voulant quand même se mettre bien avec Chuck Lorre et sentant le potentiel, veut le faire refaire, avec des personnages légèrement modifiés. Cathy, par exemple, qui était jouée par Amanda Walsh, va purement et simplement disparaître. Mais il y avait déjà deux choses, nous dit le producteur, deux choses remarquables dans ce pilote qui fonctionnait très bien, c'est Johnny et Jim. On a tout réécrit et on a eu la chance d'inclure Kelly, Simon et Kunal. C'est Chuck Lorre qui le disait à l'époque. En effet, ils incluent les personnages de Howard, un ingénieur extrêmement dragueur, et de Rajeb, un astrophysicien renfermé un peu dans son monde. Contre toute attente, la série a même un conseiller scientifique, David Salzberg, un professeur d'astrophysique. Quelqu'un qui travaille avec les scénaristes pour s'assurer que les quelques secondes de langage technique soient rigoureusement exactes. Quand la sitcom démarre, Entertainment Weekly l'a décrit un peu comme étant une version sitcom du reality show La Belle et le Geek, ce qui est quand même un peu réducteur et franchement caricatural. Mais bah, ça décrit bien quand même un peu la base de la série. C'est d'ailleurs un aspect qui irrite dès le début de la série, avant même qu'on ne s'attarde plus sur l'évolution de ses personnages. Rit-on des geeks ou avec les geeks? Voici la réponse que nous a donnée Bill Prady, le co-créateur de la série. C'est une frontière très nette et très claire. Si vous rencontrez l'équipe de scénaristes qui travaille sur la série, vous diriez que c'est un groupe de personnes encore moins à l'aise avec les rapports humains que les personnages de Big Bang Theory. Donc en fait, on écrit sur nous-mêmes. Ça vient toujours de notre point de vue à nous, car on raconte des histoires qui reflètent notre propre vie, nos problèmes avec les filles, nos propres obsessions de fans geeks passionnés par Star Trek, par
Star Wars.
Ce sont nos vies que l'on raconte. On espère donc que les spectateurs le verront ainsi. Parce que nous ne venons pas d'ailleurs, nous venons de ce monde. La nouvelle sitcom démarre donc à la rentrée 2007, mais c'est une saison un peu maudite, parce que c'est la saison de la grève des scénaristes, et elle a plombé des tonnes de séries de l'époque. C'est la saison des bides, avec un reboot de Super Jimmy de Sinistre Mémoire, et Hugh Jackman qui se crache totalement dans une série musicale, Viva Laughlin, une série qui sera très vite annulée. Il n'y a quasi aucune nouveauté qui n'a surnagé pendant cette saison, mis à part Gossip Girl et Private Practice. au milieu de tout cela, ce Big Bang Theory démarre, sans faire véritablement de Big Bang d'ailleurs. Elle s'arrête au bout de 8 épisodes pour cause de grève des scénaristes, donc elle revient à l'antenne 4 mois plus tard, en mars. Mais Bill Prady, le producteur de la série, nous a confié que cette pause de plusieurs mois n'était certes pas bonne pour le public, qui a à peine eu le temps de connaître les personnages, mais elle leur fut bénéfique. D'habitude, quand vous faites la première saison d'une série, vous êtes tellement obsédé par le fait de faire l'épisode suivant, puis le suivant, que vous n'avez pas l'occasion d'arrêter et de réfléchir un peu à ce que vous faites. Nous, on a eu 4 mois. D'un seul coup, on a fait ces 8 premiers épisodes qui étaient rediffusés sans cesse en boucle à la télé. Quand on est revenu de la grève, et on ne s'était pas parlé entre nous, on s'était vu uniquement au piquet de grève, mais on n'avait pas parlé de la série. Mais à notre retour, dans nos esprits, c'était calé. On s'est remis à écrire les épisodes suivants et on a écrit la série telle qu'elle continue à être de nos jours. Alors, Sébastien Marquet, toi qui connais la série de fond en comble, parle-nous donc de l'évolution de cette série et de cette première saison qui quand même démarre bien mal.
Oui, c'est ce que tu as dit. D'ailleurs, c'est assez surprenant de se dire aujourd'hui que finalement la série a survécu aussi longtemps, 12 saisons, c'est rare, surtout après une première saison aussi bousculée comme tu l'as dit. Et en termes de narration, clairement cette première saison n'avait pas réussi à trouver ses marques. Les personnages étaient plutôt bien définis, un peu caricaturaux, mais forcément c'est le genre qu'il veut, mais ils étaient facilement différenciables. Ils offraient une palette de lecture des geeks assez hétéroclite, avec chacun leurs imperfections, et au-delà de leurs passions respectives pour Star Trek, Star Wars ou les jeux vidéo, les scénaristes se sont appuyés sur leur incapacité à se rapprocher de la gente féminine, comme Leonard, Howard ou Rajesh. D'ailleurs, qui se souvient encore aujourd'hui que Rajesh était totalement mutique quand Penny lui adressait la parole dans les premiers épisodes, ou alors carrément voir sur leur désintérêt pour le sexe opposé, comme c'était le cas pour Sheldon. Ils avaient un point commun à ce moment-là, tous les quatre, c'est que ils avaient un flagrant manque de confiance en eux. C'est donc sur ces personnalités-là que le show a été construit, mais l'alchimie donc entre ces quatre-là, elle a vraiment eu du mal à se créer. D'autant plus qu'ils gravitaient en orbite autour de Penny, une jeune femme totalement à l'opposé de ces quatre-là, attirée bien plus par des éphèbes sans neurones plutôt que par ses surdoués. Bref, la saison 1, elle avait rien de fascinant à offrir, mais voilà, les auteurs ont compris à l'orée de la deuxième année qu'avec le personnage de Sheldon, il tenait là une perle rare. Du coup, les intrigues ont commencé à le mettre davantage en valeur et elles ont pris pleinement leur essor. De même qu'en parallèle, la relation que beaucoup imaginaient impossible entre Leonard et Penny commence à poser ses premiers jalons.
Et ça commence à bien fonctionner puisque, à l'orée de la saison 3, la série y explose littéralement dans les audiences. Elle progresse de presque 50%, ce qui est quand même assez incroyable pour une série. Bon, il y a un changement de jour de diffusion aussi, ça rentre en ligne de compte, mais enfin tout de même, elle passe à plus de 16 millions de fidèles. C'est à partir de cette saison 3 que les choses commencent à pas mal bouger pour les personnages, non ?
Alors en même temps que l'audience elle explose, et l'improbable arrive dans la série, c'est que Sheldon y rencontre la femme de sa vie en la personne d'Amy.
Alors Amy qui est interprétée par une personne que l'on connaît, c'est Mayim Bialik, celle qui était la star de Petite Fleur, Blossom. C'était la sitcom dans les années 90, exactement de 91 à 95.
Qui faisait les matinées du Disney Club sur TF1, on s'en souvient en tout cas pour les plus anciens.
Oui.
Et en tout cas, enfin, il rencontre la femme de sa vie, mais d'après un site de rencontre, parce que lui-même n'aurait pas été capable à ce moment-là de deviner qu'il était destiné à Amy. Et c'est la même année d'ailleurs aussi que le personnage de Bernadette est introduit. C'est cette blonde que les amateurs de VO connaissent bien à cause de sa petite voix horripilante, comme c'est un peu à la Annette de Premier Baiser, tu vois. Alors, on vous rassure, dans la vie, elle parle normalement. On l'a déjà interviewée et effectivement, elle s'exprime sans cette petite voix assez insupportable.
Alors pour cette saison, Jim Parsons remporte l'Emmy Award du meilleur acteur dans une comédie. Il le remportera encore 3 autres fois dans les années à venir. Donc ça veut dire que là, la sitcom est vraiment lancée, mais plus que ça. Ça devient une sitcom avec un très gros succès. On est en 2010, c'est la saison 4 et la grande question va être, va-t-il se fiancer à Amy, quoi ?
Alors oui, et plus largement pour les différents personnages, c'est un peu la saison des Je t'aime, moi non plus. Les producteurs ont bien compris que leur série va durer, et il faudrait surtout pas donner aux téléspectateurs, on l'a déjà vu dans d'autres séries, hein, mais il faut pas donner aux téléspectateurs tout de suite ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent, histoire de s'en garder sous le coude. Du coup, Sheldon et Amy se rapprochent, mais sans vraiment concrétiser. Pour qu'ils s'embrassent, les scénaristes décident de mettre en scène un baiser dans le contexte d'une soirée alcoolisée. C'est dire qu'ils ont de l'imagination. C'est d'ailleurs aussi dans ce contexte que Penny et Raj se réveillent dans le même lit. Et oui, c'est
ah, d'accord.
Elles sont loin, les années où Penny le rendait totalement muet.
C'était une fin de saison, ça, si je me souviens bien. Howard voit aussi quand même le retour de Katie Shakoff. C'est la vedette de Battlestar Galactica, qui, dans cette saison-là, tient le rôle de sa conscience. Ce qui est quand même assez étonnant. Enfin, chacun peut avoir la conscience qu'il veut. Et c'est une saison avec quelques vedettes invitées de prestige tout de même, puisqu'il y a George Takei, Sulu dans Star Trek, mais il y a aussi
Steve Wozniak d'Apple qui fait une apparition. Bah, je crois qu'à ce moment-là, Big Bang Theory est devenue la série dans laquelle il fallait apparaître. Mais l'avantage, justement, des invités vedettes, c'est que systématiquement, ils étaient en cohérence avec l'univers des différents héros. Et d'ailleurs, l'année suivante, la série va accueillir pour la première fois, il va revenir par la suite, le célèbre physicien Stephen Hawking, qui d'ailleurs est apparu 7 reprises de mémoire jusqu'à quelques mois avant sa mort.
Ah ouais, d'accord.
Et puis bon, au niveau des intrigues, la saison 5, c'est aussi l'occasion pour Leonard de s'épanouir dans une relation autre que celle qu'il entretient avec Penny, puisqu'il fricote désormais avec Priya dans une relation longue distance, puisqu'elle vit en Inde, on imagine à quel point c'était compliqué. Howard, lui, préparait son mariage avec Bernadette. Amy sortait avec Stuart. Stuart, c'est le gérant de la boutique de comics dans laquelle nos héros ont l'habitude de se rendre. D'ailleurs, ça a bien rendu jaloux Sheldon. Il y a aussi Will Wheaton, l'acteur de Star Trek Génération, qui fait sa première apparition dans cette saison-là, dans son propre rôle, hein, un peu même d'ailleurs assez négatif, le rôle.
Plutôt machiavélique, hein, je crois.
Voilà. On le reverra fréquemment d'ailleurs. Il s'est beaucoup joué de cette image tout au long des saisons, jusqu'à la fin de la série d'ailleurs, puisqu'on le voit aussi dans la saison 12.
Alors en saison 6, Howard se retrouve dans une station spatiale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ben, Howard est astronaute et il réalise le rêve de sa vie en habitant d'ailleurs pendant quelques temps dans la station spatiale. Pendant ce temps-là, du coup, entre Sheldon et Amy, ben, la relation elle avance, tant bien que mal. Hein, on le voit puisque elle se concrétisera vraiment par le mariage bien plus tard. De la même manière que lors des saisons 7 et 8, Sheldon va chercher à rationaliser sa relation avec Amy.
À donner un sens à tout ça. Voilà. Ce n'est pas simplement l'amour, c'est la science, quoi.
Voilà, on connaît Sheldon, il a besoin de mettre des mots sur son attirance, ou en tout cas sur sa compatibilité avec elle. Et il faudra attendre enfin la saison 9 pour que les deux passent à l'acte. Je ne te ferai pas de dessin, Alain, tu vois de quoi je veux parler.
Absolument pas.
Et triste nouvelle.
Je vois pas.
Non, bah tu vois. Hein. Et redevenons sérieux deux secondes. Entre-temps, la personne qui jouait la mère d'Howard, qu'on n'a jamais vue dans la série, mais qui prêtait sa voix tonitruante et qu'on adorait, Carol Anne Suzy, elle est décédée à l'âge de 62 ans, ce qui est assez jeune.
Ça a beaucoup marqué tous les acteurs de la série qui reviennent assez souvent là-dessus lors des derniers articles sortis à l'occasion du dernier épisode de la série. Dans quelques heures maintenant, tous reviennent sur ce décès qui, visiblement, ils ont perdu un membre de leur famille, quoi.
C'est ça, c'était un membre de la famille. Et comme un hommage, quelque part, dans la saison 12, Howard va aussi introduire quelque part des voix off dans sa vie de tous les jours, puisque ses nouveaux voisins vont faire construire, sans spoiler, va faire construire quelque chose qui va lui poser problème. Et donc, on va avoir ce nouveau système de voix off qui va interagir dans la série, un peu comme le faisait sa mère à l'époque.
Alors, en saison 7... donc nous sommes en 2013 et confirme-moi si je ne dis pas de bêtises, Leonard lui est en mer dans une expédition menée par Stephen Hawking. Pendant son absence, Penny et Sheldon se sont rapprochés et lui, une fois de retour, il va passer ses premiers jours avec Penny et pas avec Sheldon, parce que pas logique, sauf que Sheldon à partir de là est extrêmement vexé. Pire, il va devoir déménager parce que lui et Penny vont commencer à se mettre ensemble et donc Sheldon est pas content du tout.
Ben non, puisque ça va le changer dans ses habitudes. Sheldon, c'est un personnage psychorigide qui a ses repères et il ne faut surtout pas les bousculer. Donc, au-delà de la perte de son ami Leonard, il lui faut se retrouver des nouveaux murs.
Et ces nouveaux murs, ça ne va pas être la boutique de comics, puisqu'elle va brûler dans cette même saison. Dans la saison 8, Sheldon imagine un temps que des parasites dans son cerveau sont la cause de ses sentiments pour Amy.
Voilà. Ça rentrait dans sa réflexion pour rationaliser la relation.
Bon, il va finir quand même par lui dire qu'il l'aime. Hein. Et dans la saison 9, c'est l'anniversaire d'Amy. Et c'est dans la saison 9 que, à l'occasion de son anniversaire, Amy et Sheldon vont faire ça, enfin, vous voyez de quoi je parle, pour la première fois. Et on se retrouve en 2016, tout de même, avec la saison 10, dans laquelle, là par contre, les relations entre les personnages se solidifient complètement, puisque Leonard et Penny organisent leur seconde cérémonie de mariage. C'est Cathy Segal, d'ailleurs, de Son of Anarchy et de Marie deux enfants, qui interprète la mère de Penny. C'est Laurie Metcalf qui est la mère de Sheldon, et c'est Jude Hirsch qui est le père de Leonard. Donc c'est que des big stars pour le mariage de Leonard et Penny.
Et Kathy Bates aussi, qui jouera plus tard le rôle de la mère d'Amy. D'ailleurs, je trouve que toutes les deux, elles ont drôle de ressemblance physique, elles sont presque mère et fille, c'est assez dingue. Et une anecdote, Alain, concernant Cathy Segal, elle interprétait déjà le rôle de la mère du personnage interprété par Kelly Cuoco dans la série Touche pas à mes filles quelques années auparavant.
Vraiment, c'est...
Notre monde est tout petit.
D'accord. Et nous arrivons quand même en 2017. On arrive dans les dernières saisons de la série, quoi.
Et ben, comme tu l'as dit, ces dernières saisons, elles viennent consolider les relations de chacun des personnages. On a l'impression que les scénaristes, d'ailleurs, se sont donné pour mission de rompre le célibat de chacun des héros, puisque même Raj va tenter de se trouver quelqu'un dans la dernière saison. Penny et Leonard, comme tu l'as dit, se sont mariés, mais dans la dernière saison, se pose la question des enfants. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la saison 12, je ne vais pas spoiler, mais ça va être plutôt complexe. Dans la saison 12 aussi, Amy et Sheldon vont partager un même projet scientifique, ce qui va leur poser quelques soucis, hein, ce ne sera pas de tout repos. Il y a des enjeux assez importants qui vont se dessiner autour de ça. Et donc, au-delà de la consolidation des relations, ces dernières saisons, elles permettent aussi quelque part d'assurer la pérennité du show, puisque tu n'es pas sans savoir que les producteurs ont lancé un an auparavant la série Young Sheldon, qui revient sur la jeunesse de Sheldon.
Avec Ian Armitage dans le rôle de Sheldon, Sheldon qui a 9 ans. Et c'est une série très différente de Big Bang Theory, puisque celle-ci est réalisée en monocaméra, donc pas devant un public, à la différence de Big Bang Theory, qui est une des dernières grandes sitcoms faites devant un public, ce que va nous raconter Roxane d'ailleurs. Là, Young Sheldon, c'est vraiment différent, c'est un peu comme la plupart des comédies actuelles, c'est un peu comme Malcolm ou quelque chose comme ça, quoi.
C'est vraiment très différent, mais... c'est très différent dans la réalisation, mais on retrouve Jim Parsons, qui du coup fait la voix off de cette série-là, et vraiment le petit garçon qui interprète Sheldon à cet âge-là est absolument bluffant. Si vous n'avez pas vu la série, vraiment c'est une merveille. Pour une fois qu'une série donne naissance à un spin-off qui se tient, ça fait vraiment plaisir. Et il y a même un crossover dans la saison 12 entre les deux Sheldon, je ne dirai pas plus, parce que oui, ils l'ont réalisé, c'est vachement bien fait aussi, ça fait plaisir, et vraiment ça passe le témoin quelque part à Young Sheldon. Enfin, Alain, je voudrais te signaler quand même, parce que je sais que tu les apprécies beaucoup, il y a William Shatner qui apparaît dans la saison 12. C'est qui William Shatner?
William Shatner, c'est le capitaine de l'Enterprise dans la série Star Trek, dont on parlera dans ce podcast un de ces jours.
Voilà, et puis aussi...
Et aussi dans plein d'autres rôles, dans des séries, Hooker, etc. Mais enfin, c'est surtout William Shatner, quoi. C'est l'incroyable et l'indétrônable William Shatner.
Qui provoque d'ailleurs des crises...
L'inénarrable William Shatner.
Qui provoque des crises d'hystérie dans la série avec les personnages. Et souligner aussi qu'à la fin de la saison 11, c'était Mark Hamill qui avait... performé, je ne sais plus comment on dit en français, en tout cas qui avait officié le mariage entre Amy et Sheldon.
Eh bien, merci Sébastien pour ce tour d'horizon extrêmement complet. En tout, c'est 279 épisodes, ce qui est un record pour une sitcom tournée devant un public. En 2012, au Festival de télévision de Monte-Carlo, Mayim Bialik, qui tient le rôle d'Amy, nous disait justement ce que ça représente de tourner devant un public en multicaméra et ce que ça pouvait apporter. Et c'est Sébastien Barquet qui lui aussi était là et qui lui posait la question.
Vous filmez devant un public, quelle importance cela a pour vous ?
C'est un peu comme d'être dans une pièce de théâtre, mais une pièce qui change ses dialogues toutes les 30 secondes. Moi, j'ai toujours été nerveuse quand je joue. Le côté positif est que cette énergie me motive. C'est vraiment quelque chose de spécial. Quand je jouais par le passé, on faisait quelquefois plein de prises à chaque fois. Là, on fait une ou deux prises, et la façon dont vous jouez, la façon dont le public réagit, c'est ce que vous verrez ensuite à la télé. J'avais des scènes qui nous semblaient un peu ternes et on n'arrivait pas à voir ce qui clochait, et devant un public, elles prenaient vie. Les réactions, les rires, les pauses que l'on doit faire pour laisser passer les rires du public, c'est cela qui rend les choses réelles et drôles.
Et justement, être tourné devant un public, si c'était la norme durant les décennies passées, c'est devenu de plus en plus rare, parce que les chaînes de télévision préfèrent les comédies monocaméra tournées un peu comme n'importe quel film et série. Sauf, justement, Big Bang Theory. Alors Roxane, tu as eu la chance d'assister à un tournage d'un épisode de Big Bang Theory. Comment ça se passe? Comment on fait pour assister à un tournage? On arrive le jour du tournage, on arrive parmi le public, on dit bonjour, je suis française, je suis là, je veux rentrer. Raconte-nous.
Alors non, pas du tout. Et d'ailleurs, tu as choisi le bon mot, c'est la chance. Parce que c'est en fait un peu un parcours du combattant pour pouvoir assister à une émission, surtout comme Big Bang Theory, qui est très populaire. Alors si je me souviens bien, c'était en 2011 quand j'ai pu y assister, donc c'était la saison 4. Et en fait, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Alors moi, j'ai eu de la chance, c'était à ce moment-là, j'ai vécu quelques mois à Los Angeles. Et j'ai entendu parler qu'on pouvait assister à des émissions, donc j'en ai profité en étant fan de séries. Et ça a été difficile puisqu'il faut s'y prendre quand même quelques mois à l'avance. Il faut savoir que les places sont mises, donc c'est complètement gratuit, on peut y assister gratuitement. Et les places sont mises à disposition un mois avant la diffusion, enfin avant l'enregistrement de l'épisode. Il faut se lever très tôt, parce que généralement c'est un mois pile, alors je crois que c'est 30 jours avant. Et c'est généralement il dit sur le site à 8h30 du matin.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ah ouais. Mais évidemment, ça peut être à 9h ou ça peut être à 8h15. Voilà, donc il faut être vraiment là avant et rafraîchir la page toutes les secondes, puisque les places partent généralement en une minute.
Bah, plus la série a du succès, évidemment, plus les places doivent partir vite, d'autant que c'est gratuit, quoi.
C'est ça, c'est gratuit, et c'est que c'est des gens du monde entier qui viennent pour assister et pour voir leur héros. Donc, première étape, s'inscrire sur le site et décrocher une place. Quand on y arrive, on se dit, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir y assister.
Oui, là, logiquement, il n'y a plus qu'à attendre le jour et l'heure, quoi.
C'est ça. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Ah.
Alors, quand on se rend au studio, ils nous disent qu'il faut venir au moins 90 minutes avant le début du tournage. Ne connaissant pas comment ça se passe, c'est ce que j'ai fait. Je suis venue 90 minutes avant l'enregistrement.
Oui, enfin moi c'est ce que j'aurais fait aussi, puisque c'est ce qu'ils nous disent. Oui,
voilà, c'est ce qu'ils nous disent.
Un vendredi dans les studios de la Warner, je crois, c'est ça.
C'est ça, à Burbank. Ouais. Et quand on arrive, au début, on est dans une sorte de cour dehors. Et là, on voit déjà en arrivant qu'il y a quand même énormément de monde. On se dit, bon, il y a déjà la queue, mais bon, j'ai ma place, tout va bien. Et en fin de compte, c'est que les gens sont là depuis 3 ou 4 heures.
Ah d'accord, il aurait fallu arriver bien avant.
Bien avant. Parce que là, quand on fait la queue et qu'on entend un peu parler, on apprend que c'est peut-être pas garanti, finalement. On a nos places, mais on n'est pas sûr de rentrer.
Tu veux dire qu'ils font du surbooking, comme les compagnies aériennes?
Exactement.
Oh là là.
Ils sont malins. Alors, quand on fait la queue, donc on fait la queue un petit moment donc dehors. Donc certaines personnes ont fait la queue pendant 3 heures ou 4 heures au soleil. Et au bout d'un moment, ils nous font rentrer dans une autre salle où là, ils nous placent en rang. Et au fur et à mesure, ils vont faire rentrer des personnes. Et quand on attend, on voit qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, qui, eux, n'ont pas fait la queue, qui rentrent, comme ça. Et là, on apprend que ce sont des VIP.
Ben oui. Voilà. Là, c'est soit des journalistes, soit des responsables de la chaîne, des responsables de la maison de production, des amis de la production, des amis de la chaîne, etc.
Des amis des acteurs, oui. Les enfants... Tout ça.
Tout à fait. Donc là, qui te prennent donc des places à toi.
Voilà, exactement, qui prennent nos places que nous, on attend déjà depuis un petit moment dehors. Et ça arrive à mon tour, donc j'étais avec une amie et on se dit, non, quand même, on va rentrer, c'est pas possible. Non, il y a de la place.
Bah oui.
On va y aller, on a nos tickets.
Évidemment, bien sûr.
Voilà, on est une période limite à Los Angeles. Moi, je repartais quelques semaines après. C'était donc ma dernière chance pour pouvoir assister à l'émission. Comme je vous rappelle, il faut s'inscrire un mois avant. Et quand ils commencent à placer les personnes, enfin à les faire rentrer, je vois que là, ils s'arrêtent à moi. Juste à moi. Et ils disent, c'est plus possible.
Non.
Si.
Non.
Si. J'étais vraiment au bord des larmes. J'ai dit, c'est une blague. On se dit, des fois, on n'a pas de chance dans la vie. Mais là, je me suis dit, je suis un chat noir. Et on a attendu, je crois, un quart d'heure ou 20 minutes où déjà ils ont laissé que 4 personnes. Ils ont fait partir tous les autres et ils ont laissé 4 personnes, donc mon ami et moi. Et au bout de 20 minutes, ils sont venus, ils nous ont dit « il y a 2 places ». Du coup, on a pu rentrer. Et là, le soulagement, c'était « ah, enfin, on a le précieux sésame, on va pouvoir rentrer ».
Mais c'est un parcours du combattant et la mais frustration c'est... d'être juste avant la fermeture des portes. Quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ils nous ont fait vite rentrer. Et là, pour entrer, alors évidemment, ils nous ont prévenu au départ, c'est qu'on n'a le droit à aucun appareil électronique.
Bien sûr.
Pas d'appareil photo, pas de téléphone. Et même si on ne les a pas laissés dans la voiture et qu'on pense pouvoir rentrer avec, même si on les éteint, non, il y a une sécurité qui nous fait passer au détecteur métaux. Et si évidemment nous avons un portable, ils nous les confisquent, enfin ils les gardent de côté et ils nous les rendent à la fin de l'émission.
I think we're about set to go. Prey and Leonard invited Howard and Bernadette to dinner. Amy wants Bernadette to act as a spy.
Quand ils arrivent, ils sont donc présentés par le chauffeur de salle un par un. Ils se mettent devant nous, devant le public. Et ils nous saluent tous et ils sont très souriants. Et c'est une chose qui m'a marquée parce que je me dis, ils font ça. Bon, moi j'en étais à la saison 4 à ce moment-là, mais quand même déjà 4 saisons. Et de me dire qu'ils font ça pour chaque épisode. À chaque fois, ils reviennent saluer un public comme si c'était la première fois. Et je trouve, ils sont vraiment présents, souriants, heureux d'être là, heureux de voir le public. Et ils nous remercient. Et ça, c'est une chose aussi importante, c'est qu'ils nous remercient. Tout le temps. On devient presque acteur, nous aussi, finalement, de Big Bang Theory, parce qu'on est aussi important. Pas aussi important qu'eux, évidemment, mais on a notre importance, et on le sent, et ils nous le font ressentir. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et le public, évidemment, est heureux d'être là. On applaudit, on crie. On voit vraiment que c'est des fans. Ce sont des fans qui sont présents, et qui aiment cette série, et qui viennent pour les acteurs, pour voir comment ça se déroule. Pour voir finalement comment se passe un tournage, c'est difficile d'y avoir accès. Alors
c'est plus pour voir un tournage et pour voir les acteurs que pour connaître un scénario un mois avant.
Honnêtement, je pense que c'est plus pour voir les acteurs et un tournage. Ouais. Même si on est toujours curieux de savoir comment ça se passe, l'envie de voir ces héros en vrai, ces personnages qui nous font rire chaque semaine, prend le dessus finalement sur le scénario qu'on prend plaisir à découvrir sur le moment. Mais
c'est presque annexe, quoi. En fait, l'histoire est presque annexe. C'est vraiment de vivre un moment avec eux. Quand tu as vu l'épisode après, est-ce que tu l'as écouté avec beaucoup d'attention en disant « Ah, je vais essayer de reconnaître mon rire à moi ».
Alors, j'ai essayé, mais ce que j'ai essayé de reconnaître, ce n'était pas mon rire, mais c'est parce que je me souviens que juste devant moi, j'avais un homme qui avait un rire très fort.
Très tonitruant.
Ouais, très tonitruant. Même, je me rappelle, le chauffeur de salle, à un moment, il avait fait une petite blague dessus parce qu'on l'entendait vraiment, il avait une résonance. Et du coup, c'est quand je regarde cet épisode, je suis toujours là en train de me dire « Ah, ah, là, ah,
là c'est mon voisin, là c'est lui,
du coup,
mon voisin ».
Juste derrière, je m'en souviens. Et pour revenir aussi quand même, une fois qu'ils tournent, c'est vrai qu'ils font moins appel à nous les acteurs parce qu'ils sont concentrés sur leur travail. Il y a eu un moment où, donc, pendant qu'ils répètent un peu leur scène, le chauffeur de salle toujours, qui est là à ce moment-là, est très actif avec le public, il nous pose des questions, ça chante un peu, il nous demande d'où on vient, il y a vraiment une interaction. Et il y a d'ailleurs même un moment... Un jeune homme qui lui demande d'où il vient, ce qu'il fait et tout. Et il lui dit qu'il est danseur pour Lady Gaga. Il lui dit « Ah bon ?» Et il fait « Bon, ben... » Et puis du coup, il fait « Allez, on va mettre une chanson. » Donc, ils ont mis une chanson de Lady Gaga. Et il s'est mis à danser. Il dansait extrêmement bien. Et du coup, le public, on était vraiment à fond. On était derrière, on applaudissait. Et je me souviens, c'est que les acteurs se sont sentis interpellés en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Là, on dirait qu'il y a un peu plus d'ambiance que d'habitude. Et du coup, ils sont venus le voir, ils sont venus le soutenir et applaudir à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est touchant parce que malgré leur temps de travail, ils prennent du temps pour nous aussi.
Il y a vraiment une belle interaction entre les comédiens et le public qui vient, quoi.
Ouais, vraiment.
C'est étonnant. Combien de temps dure le tournage ? Généralement, ça démarre vers les 17h, 16h, quelque chose comme ça.
C'est ça, 17h et quelques, 17h30. Et ça dure de nombreuses heures. Oui.
Ça dure très longtemps.
Ça dure
le
très longtemps.
Le souvenir que j'ai, moi, c'est que ça dure en effet assez longtemps. Genre 2-3 heures du matin.
Alors, non, là, c'était pas 2-3 heures du matin, mais ça allait au moins jusqu'à 22h, 22h30.
Quand même.
Peut-être 23 heures. Alors, ce qui était spécial, l'épisode où j'étais a duré un peu plus longtemps, puisqu'ils ont dû refaire une scène qu'ils avaient déjà tournée. Et à un moment, ils nous ont dit, donc je ne sais plus si c'était le réalisateur ou quelqu'un de la technique, qui nous dit, bon, on a tourné toutes nos scènes, sauf qu'on va devoir en refaire une. Alors, ceux qui doivent y aller peuvent y aller. S'il y en a qui veulent rester, vous pouvez rester. Mais sachez que ça va durer du coup plus longtemps, puisqu'on va refaire une scène qu'on a déjà tournée. Évidemment, je suis restée.
Bien sûr.
Après avoir fait tout ça. Et du coup, on a revu une scène. Et c'est fou parce que le changement qu'il y a eu, j'ai essayé de noter justement, c'était que Penny, dans la première scène, n'avait pas de veste. Et la deuxième scène, c'est qu'ils lui ont mis une veste. Et c'était ça le changement. C'est qu'on voit à quel point les détails finalement sont importants. C'est que la scène se passait le soir, c'est dans un restaurant. Et on se doute qu'elle venait de dehors et elle voit... c'était au moment où Léonard sortait avec Priya, la sœur du coup de Raj. Oui. Et elle les voit au restaurant et elle rentre pour leur parler.
Donc elle avait obligatoirement une veste, voilà, quand elle est rentrée au restaurant. Et la scène dans laquelle elle est à l'extérieur a été préalablement tournée, elle a sa veste. Et c'est sans doute la script qui a dit « Ah, attendez, là on a fait une erreur. Elle n'est pas habillée comme ça dans le plan d'avant. »
Exactement, donc, c'était tout à fait ça. Donc on est resté jusqu'à la fin et on a eu une petite surprise, c'est que du coup finalement les acteurs sont venus à la fin nous voir pour signer des autographes et pour échanger un petit peu aussi avec, avec nous.
Ah oui, bah ça dis donc, ouais. C'est, tu as bien fait de rester.
Oui, j'étais très contente. Je n'ai pas pu parler à Jim Parsons parce que lui il était déjà parti, vu que ça ne concernait pas sa scène, mais j'ai pu échanger un peu avec Johnny Galecki, avec Kelly Cuoco. Et l'interprète de Raj.
Formidable. Et ils sont comment, une fois que le tournage est terminé? Parce que pour eux, quand même, c'est une semaine de boulot qui se termine à ce moment-là, ce jour-là, au moment du dernier truc. Ils sont fatigués, épuisés, ou ils viennent vous voir, applaudir, et là, ils sont venus vous voir presque en récompense un peu de leur semaine de travail?
C'est ça, c'était un peu une récompense pour leur travail, puis aussi une récompense presque pour nous, pour être resté finalement avec eux si tard. Et alors fatigué, oui, ça se sent évidemment. Et presque aussi un soulagement aussi de se dire, ça y est.
C'est dans la boîte.
C'est dans la boîte, on l'a fait. Mais très souriant, très accueillant. Ils viennent, ils sourient, ils échangent. Il y a des personnes qui disent qu'ils sont faits... qui sont venus même juste pour aller voir. Ils ont traversé le pays ou ils viennent d'un autre pays juste pour pouvoir assister à l'émission. Et ils sont touchants parce qu'ils nous écoutent, ils sont présents.
Formidable.
Ouais.
C'est une belle expérience. Et donc, à 23h, tu sors des studios de la Warner avec ton ami et ça y est, tu as vu un épisode Big Bang Theory avant tout le monde.
Voilà, j'ai vu un épisode un mois à l'avance. Et je ne dis rien. Je me tais.
Ben merci beaucoup, Roxane, pour cette expérience formidable.
Merci beaucoup. Hein. C'était passionnant. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Maintenant, on va parler un peu argent, si vous le voulez bien. En 2011, les acteurs Johnny Galecki, Jim Parsons et l'actrice Kelly Cuoco sont à 250 000 dollars l'épisode. L'année suivante, les mêmes acteurs sont à 300 000 dollars. En 2013, côté salaire, c'est véritablement le Big Bang. Jim Parsons fait la couverture de TV Guide avec son salaire qui est de 325 000 dollars par épisode. Idem pour Galecki et Cuoco. Et pour lui, comme pour tous les autres acteurs, leur contrat arrive à expiration et doit bientôt être renégocié. Ce qui veut dire généralement une très forte augmentation si on veut que la série continue avec eux. Et en 2014,
Belle et Star ont signé un nouveau contrat. Un contrat de 3 ans. Ils gagnent maintenant $1 million par épisode. C'est exactement comme les vedettes de Friends à la fin de la série. Fin de la série qui sera donc diffusée chez nous dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mai à 2h40 du matin en VO sous-titrée française sur Canal+. Elle est aussi disponible sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Et cette diffusion sera suivie même d'un marathon de la série dérivée Young Sheldon, dont on vient de vous parler, la saison 2 d'ailleurs, et pour continuer avec l'intégralité de la saison 12 de Big Bang Theory, dès le vendredi matin à partir de 10h sur Canal+ et MyCanal. Donc c'est une orgie de Big Bang Theory et de Sheldon auquel vous allez pouvoir avoir droit. La série se termine elle-même, mais elle laissera comme témoignage de son passage une expression.
Bazinga.
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 Une expression qui vient quand même d'un fabricant de farce à attrape qui avait pour slogan « Si c'est drôle, c'est Bazinga ». Et la série laissera aussi une chanson de Bill Prady en personne, une berceuse qui est chantée par Sheldon, qui est devenue un peu ce qu'était le Smelly Cat dans Friends. Et il est encore question de chat en plus. La chanson s'appelle « Soft Kitty ».
Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
Eh bien, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir partagé cet hommage à Big Bang Theory. Merci Roxane.
Merci Alain.
Merci Sheldon, merci Sébastien. Je vais continuer de t'appeler Sheldon, je suis désolé.
Bazinga Alain.
Vous serez évidemment devant votre écran pour le dernier épisode de The Big Bang Theory sur Canal+. La semaine prochaine, je vous raconterai tout sur la série la plus déjantée de son époque. Un soap qui abandonne absolument toute cohérence, mais qui est devenu un phénomène. Pire que Dynasty, pire que Gossip Girl réunis, je vous parlerai de Melrose Place. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.